Il est 13h.
In my neighborhood, because I'm so handsome, I'm always misunderstood. Now all the girls they know I've got everything that they need, but I like to take my time, Lord. I ain't built for speed. I'm a handsome devil, baby. There's more than meets the eye. I've been all around this great. Class in disguise. Pick you up at 8. I'm gonna bring you champagne and roses. You know I ain't gonna be late. I'm a handsome devil, baby, and this morning meets the eye. I've been all around this great big world. I'm high class in disguise. I'm high class in disguise. I'm high class in disguise. Oh yeah, you see right, darling.
Salut à tous, c'est Sweet Home Chicago numéro 878 aujourd'hui, samedi 31 décembre 2011, dernière émission de l'année qui sera rediffusée d'ailleurs samedi prochain, le 7 janvier. On vient de démarrer avec bien sûr Nick Owen Toussaint, disque coup de cœur du mois, l'album Lonely Number. Nick Owen Toussaint avec High Class in Disguise. On aura l'occasion d'écouter d'autres titres et même d'autres albums de Nick Owen Toussaint, puisqu'il sera l'invité de la première heure aux alentours de 13h20, on aura Nicolas Toussaint, Nico Wayne Toussaint au téléphone en interview également. En deuxième heure, l'ami Pierre Sabater, Pedro Peter Crazy, pour nous parler de son activité dans le monde des cigares, box, guitars. Et puis, disque de la semaine, Miss Dunla Greenleaf chez Blue Mercy, ça s'appelle Trying to Hold On. Écoutez cette voix féminine absolument sublime, Dunla Greenleaf. Bienvenue à tous.
Let's make it clear. I do love you, dear. I want for us the best. me like I'm for you. There'll be no trials we can't get through. Just take my hand, you're my only man. We'll find a spot and buy a piece of land. I know we'll last. With me you don't have a past. Just be for me like I'm for you. There'll be no trials we can't get through. There'll be no trials we can't get through.
De son album Trying to Hold On, disque de la semaine pour ce numéro 878 de Sweet Home Chicago, avec quelques invités de luxe, à savoir Bob Margolin, Anson Funderburg, Smokey Joe Kubek, Billy Branch, Bob Corritor, Rich Del Grosso, Blue Mercy et quelques autres. Ici, il y avait Bob Corritor à l'harmonica, Bob Margolin à la guitare, Chuck Cotton à la batterie et Mokey Brill à la contrebasse. Voilà, 14 titres, on ne découvrira pas tout l'album, mais sachez qu'il est disque de la semaine et donc on en écoutera peut-être un ou deux encore avant la fin de cette émission, avant 15h. Que je vous dise aussi qu'il y aura un petit bonus en toute fin d'émission. Donc pour ceux qui ont le temps cet après-midi, qui ont déjà fait leurs achats du réveillon du 31 décembre, vous pouvez rester un tout petit peu plus longtemps de l'autre côté du poste, parce qu'il n'y aura pas que 2 heures d'émission. Je vous en dirai un petit peu plus tout à l'heure. Petite surprise de fin d'année. Voilà, en attendant de retrouver Nico Wayne Toussaint en live au téléphone et puis de revenir un petit peu sur sa discographie déjà longue, déjà riche. Voici une nouveauté de chez Dixie Frog, le groupe Delta Saints, avec A Bird Called Angola. Allez, c'est le moment de monter un petit peu le son. Hein. Encore. Voilà. Let's go! The Delta Saints dans la radio. Flowing, little bird,
is gonna steal my soul. Bury me where that old river flows. And that hot Louisiana sun beating down on your bones. Sweet bird and gold, baby, take me home. 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 Take me home, take me home, so take me home. And I said, sweet bird Angola, baby, take me home, yeah. So take me home, 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 so take me home.
The Delta Saints, leur nouvel album est chez Dixie Frog. Voilà, Dixie Frog, un label dont on va parler tout à l'heure pendant cette interview de Nico Wayne Toussaint. Mais avant, une petite info concernant la French Blue Touch 2011. C'est aujourd'hui le dernier jour, hein, 31 décembre, pour désigner les meilleurs albums français de 2011 parmi une sélection proposée par Maxwell Street et Virus de Blues. 20 albums, il y a un petit peu plus de 3700 votes enregistrés pour l'instant. Et le classement provisoire donne les Witch Doctors premier, Cotton Blues second et troisième, les Jumping to the West Side. Alors vous pouvez encore voter et jouer jusqu'à minuit pour gagner soit un lot de 8 CD, un lot de 6 CD ou un lot de 4 CD à virusdeblues.free.fr. Bien sûr, une seule personne ou une seule IP ne peut attribuer une note qu'une seule fois. Voilà, signé Alain Angelbert et Jean-Pierre Savouillot. A signé également la sélection des 100 albums 2011, à savoir les SHC Awards 2011, avec 100 disques. Je ne vais pas vous les citer tous, simplement vous dire qu'on en est à 280 votes et qu'on a tout le mois de janvier encore pour s'exprimer. Ça va de Alex and the Moonshiners jusqu'à Greg Zlabzinski. Il y a 23% de blues français et puis forcément 77% de blues, pas forcément que américain d'ailleurs, il y avait pas mal d'Européens qui se sont représentés. Alors vous vous laissez aller, vous votez, vous avez droit à une voix chacun. Et puis il y a un certain nombre de cadeaux qui vous sont réservés également. Et là, je ne peux pas encore vous dire le nombre, pour l'instant il y en a 36. Vous serez trois gagnants tirés au sort le 1er février 2012 pour remporter, ben voilà, 36 divisé par 3. Vous avez remporté, quand je dis 36, ça va monter, ça va monter. J'ai eu des promesses de dons, des CD, même des vinyles, figurez-vous. Il y a également des packs de survie. Enfin, je vous laisse découvrir tout ça sur le site internet de l'émission blues.radio666.com. Juste après ce titre-là, on retrouve Nico Wayne Toussaint au téléphone. Ce titre-là, c'est quoi? Ben, c'est tout simplement un extrait de l'album My Kind of Blues chez Dixie Frog de monsieur Nico Wayne Toussaint. Et ça s'appelle Barbara.
Barbara, Barbara, can't you hear me call your name? couldn't even talk with you, darling. I couldn't even hold you tight. It was bad, baby, bad.
En 1998, j'ai dû dire une bêtise tout à l'heure, My Kind of Blue, c'était le titre de l'album de Nico and Toussaint, déjà chez Dixie Frog avec Barbara. Nico au téléphone, ça va Nico ?
Bonjour Marc, bonjour à tous les auditeurs.
Merci de ta présence, merci d'être là, surtout c'est pas forcément facile, hein, 31 décembre, on a tous quelque chose à faire ce soir j'imagine.
Mais
aujourd'hui ça va, c'est, à cette heure-là ça te convient ?
En journée c'est nickel.
Bon, eh ben écoute, merci d'être là. On est là pour parler de ton dernier album, bien sûr. On n'est pas là que pour évoquer ta carrière passée, mais aussi parce que je trouvais que c'était intéressant de revenir sur quelques albums. Je me suis aperçu que ça commence à faire beaucoup de disques chez Dixie Frog. C'est un bel exemple, j'allais dire, de fidélité de ta part et de la part de Philippe Langlois.
Tout à fait. C'est... Pour moi, travailler avec Philippe depuis le début, ça a été une aide très importante et aussi une manière de toujours aller chercher plus loin, puisque d'un seul coup, c'était pas juste un disque que je faisais pour moi, c'était toujours des disques qui soient validés par Philippe. Et lui, il a des contraintes économiques.
Ouais.
Et donc à chaque fois, ça obligeait à trouver, à faire mieux, à essayer de faire mieux en tout cas, essayer de faire d'aller plus loin. Et je pense que si j'avais pas eu cette relation avec Philippe, par moi-même, j'aurais pas forcément, je me serais peut-être davantage complu à faire une seule chose, quoi, et peut-être pas sortir d'album aussi régulièrement.
Alors Philippe Langlois de Dixie Frog, c'est un monsieur important pour beaucoup de gens, hein, parce que s'il a signé énormément d'artistes blues et puis d'autres horizons musicaux, il a influencé véritablement ta façon de jouer, de chanter, d'orchestrer tes morceaux, de composer.
C'est-à-dire que il est jamais en studio quand on enregistre. Donc à ce compte-là, il peut pas vraiment. Je peux pas dire qu'il a influencé, mais par exemple, l'album en français là, le précédent que j'avais sorti en 2009 là, qui s'appelle Blues entre les dents.
Oui.
On en parlait depuis. On a commencé à en parler 5 ans avant la sortie du disque.
Oui.
Et je lui ai envoyé plusieurs albums, enfin en tout cas un vraiment qui était terminé, qui pour moi était terminé, et il l'a refusé. Et donc bon, il m'a donné quelques pistes, mais le résultat général, c'est que de toute façon, ce que j'avais envoyé, ça l'avait pas convaincu.
Ça l'avait pas convaincu à l'époque.
À l'époque. Du coup, j'ai dû digérer ça, et puis arriver dans le courant de l'année qui a suivi, à retourner en studio avec des nouvelles chansons, avec une nouvelle approche. Et ça a donné le résultat final. Donc à ce compte-là, sans forcément être en studio et me dire qu'est-ce qu'il faudrait que je fasse ou qu'est-ce qu'il faut que je fasse, par le fait qu'il valide ou qu'il valide pas, il m'a refusé 2 ou 3 albums comme ça que j'avais proposé.
Mm-hmm.
Et je crois qu'il a eu raison en fait, parce que s'ils étaient sortis tels que je les avais fait la première fois, le résultat est moins bon que ce qu'il m'a demandé de faire.
Ce que tu viens de dire, ça a été validé par une seconde écoute de ce que tu as fait après coup ou pas?
Tout à fait.
Ouais.
Tout à fait.
Et ça donnait quoi finalement? Il avait raison, c'est ça?
Il a raison, ouais, il avait raison. Donc, en ce sens-là, il m'a poussé vers le haut, disons. Il m'a poussé dans mes limites à chaque fois.
On dit que cet album qui vient de sortir, qui s'appelle Lonely Number, je l'ai lu à droite à gauche. Bon, c'est peut-être des paroles de journalistes qui n'ont pas forcément écouté avec autant d'attention les albums précédents. J'en sais pas, je me fais l'avocat du diable. On dit que c'est ton meilleur album. Qu'est-ce que tu en penses, toi, personnellement, vu de l'intérieur?
Je dirais que c'est mon album le moins personnel. Alors, ça me fait pas rire, mais disons c'est comme ça, C'est rigolo, mais c'est mon album c'est l'album sur lequel j'ai travaillé le plus avec un apport extérieur. Et cet apport n'est pas des moindres, puisque c'est le batteur et producteur de l'album, Nicky Estor.
Oui, Nicolas Estor, ouais.
Nicolas Estor, que les gens peut-être se souviennent de lui quand il jouait avec Mozilla.
Oui.
Le groupe de Bordeaux. Avec Nicky Estor, j'ai enregistré la moitié de mon double live, la partie française.
Oui, le Transatlantique Live de 2004, voilà. Ouais.
Et depuis cette époque, en fait, on a continué à faire des concerts, et après, Nicky est parti vivre au Canada, et puis il voulait toujours monter un label, et il l'a fait, et il a sorti son premier album, qui a eu un super retour collectif des Radio Blues.
Exactement.
Qui s'appelait Nicky and Friends, je crois. Dans lequel moi j'intervenais, mais il y avait Mr. Boogie Woogie, il y avait des chanteurs canadiens aussi, Ben Racine, tout ça.
Et Kevin Mark, guitariste et bassiste.
Exactement, et exactement. Oui. Et le deuxième album qu'il a proposé de faire, c'était le mien. C'était
D'accord.
celui-là, Lonely Number. Donc, au début, on a beaucoup échangé pour savoir dans quelle direction on ferait ce disque. Et lui aussi, par exemple, j'ai proposé des chansons qui rentraient pas dans le cadre de ce que lui voulait faire. Du coup, il m'a proposé. Du coup, je lui ai dit, mais moi, je suis un peu, j'ai pas forcément l'inspiration pour écrire un disque de blues en entier.
Mm-hmm.
Et donc, il m'a dit, mais si tu veux, je peux te proposer des chansons entre moi et Kevin. Et c'est ce qui s'est passé. Donc, il y a finalement, je crois, la moitié des titres qui sont que je signe. Et puis, il y a quand même l'autre moitié ou pas loin de l'autre moitié qui est signée par Nicky
par
Kevin.
Ouais, ouais.
Voilà. Et ensuite, il y a eu tout un apport aussi de Nicky en studio. Il m'a beaucoup laissé faire ce que je voulais, mais sur le plan du son, par exemple, et sur le plan de certaines directions artistiques à la prise de son et au mixage,
mm-hmm.
c'est vraiment beaucoup plus le travail de Nicky que le mien. Et donc voilà, c'est vraiment une collaboration comme j'en avais jamais fait avant.
Alors c'est tu viens de le dire, ton album le moins personnel, c'est peut-être aussi celui où il y a le plus d'invités. Est-ce que l'un n'explique pas l'autre? On retrouve Monster Mike Welch, Rod Piazza, David Maxwell, des gens avec qui tu avais déjà collaboré d'ailleurs, David Maxwell, je me souviens, Guy Davis, Mr. Boogie Woogie, J.P. Source, Tommy Schneller, et puis donc tu retrouves un de tes guitaristes fétiches, Florian Riau, et Kevin Mark à la basse, Nicky Hester à la batterie, on vient d'en parler. 16 morceaux dans cet album, est-ce que ça veut dire que comme beaucoup de disques, il y a 23 ou 25 morceaux, il faut en choisir 12 ou 14, et que là, t'as vraiment, vraiment, vous n'aviez pas, quand je dis vous, c'est toi, Nicky, Kevin, tous ceux qui ont participé à la création, à l'écriture, vous n'aviez pas réussi à choisir et à couper, finalement, vous avez opté pour un format d'une heure complète, hein, c'est ça?
En fait, c'est pas ce qui s'est passé. J'avais acheté un disque de Rick Elstrin, qui n'est pas distribué dans le commerce, mais qu'il vend à ses concerts, dans lequel il se présente non pas comme le produit commercial de Little Charlie and the Nat Cats avec Alligator, ou des trucs maintenant qu'il fait. C'est un album qu'il vend et sur lequel il y a 17 chansons. Mmh. Et il y a certaines chansons de son propre répertoire, mais il y a beaucoup de reprises. Et il joue beaucoup d'harmonica, en fait. Et il joue, alors, des fois avec un style plus des années 20, des fois un style plus Little Walter, des fois un style plus Sonny Boy, des fois un style à lui, mais il utilise beaucoup de chansons pour montrer... C'est vraiment un disque destiné aux harmonicistes, disons.
D'accord.
Ouais. Et j'ai apprécié d'acheter ce disque et de l'écouter, parce que je me disais, tiens, c'est intéressant, je vois ce gars qui me présente ses capacités d'harmoniciste, en fait. C'est pas juste un disque pour le marketing. Et ça m'a inspiré pour... Quand j'ai parlé à Nicky, je lui ai dit que je voulais faire un disque long. Je voulais avoir plein de chansons, parce que je voulais pouvoir jouer de l'harmo dans tout un tas de circonstances différentes. Parce que c'est un truc que j'avais pas fait depuis mon live, finalement. C'était de jouer de l'harmonica.
C'était un reproche qu'on t'avait fait, notamment pour ton dernier, Le Blues entre les dents, qu'il n'y avait pas assez d'harmonica dessus, je crois.
Voilà, c'est ça. Et je le regrette pas du tout dans Blues entre les dents, parce que pour moi, c'était l'harmonie n'était pas important. Mais, enfin, c'était secondaire, disons, par rapport au projet. Mais cette fois-ci, j'avais envie de faire un disque où je me montrais à moi-même et éventuellement je rappelais aux gens que je pouvais aussi bien jouer de l'harmo, quoi. Enfin, que j'avais quelque chose à défendre avec ça, et voilà. Et que j'avais appris de nouvelles choses et que j'avais travaillé, voilà.
Avant d'aller plus avant, parce que j'ai encore plein de questions pour toi, Nico, est-ce qu'il y a un morceau parmi les 16 qui te tient le plus à cœur, un morceau que tu dirais, bah, s'il fallait en garder un, ou s'il faisait partie des trois meilleurs, des trois que tu préfères personnellement, ou des trois plus personnels, je sais pas, en dehors de High Class in Disguise, ce qu'on vient de passer au tout début d'émission, qu'est-ce que tu choisirais?
Disons que quand je dis que c'est un album qui est pas du tout personnel, qui m'est le moins personnel, il y a quand même deux ou trois chansons que j'ai écrites dans ce disque, voilà, qui sont ultra personnelles. Et donc la 5, notamment How Long to Heal, si je la juge d'un point de vue de l'écriture, c'est ma meilleure chanson, ou c'est l'une de mes meilleures chansons les plus abouties, disons.
Si tu veux bien, Nico, on va l'écouter, on se retrouve juste derrière, d'accord?
Ok, ça marche.
À tout de suite.
À tout de suite.
How long to heal? You fell for him.
Autrement dit, ben, combien faut-il de temps? Comment est-ce que ça prend le temps de guérir? C'est ça, Nico?
Voilà, c'est ça, oui.
Un morceau que tu partages au chant avec Guy Davis, j'ai trouvé assez intéressant. On va dire peut-être ton coup de cœur ou le morceau qui ressort le plus selon ton propre ressenti, soit celui justement où tu partages le chant.
Ah oui, ouais. Disons que la voix de Guy Davis, elle est extraordinaire.
Ah, hein, oui.
Elle est splendide, elle est incroyable.
Moi, j'ai trouvé qu'il y avait l'ombre de John Newker qui planait au-dessus de ce titre-là.
Oui, oui, bien sûr. Le riff principal de guitare, c'est pour ça que c'est un morceau qui m'est très très personnel. C'est Florian qui l'a enregistré parce que c'est lui qui jouait la guitare, mais
ouais.
il a vraiment joué ce que je lui ai demandé, ce que je lui ai montré, ce que j'avais entièrement trouvé, quoi, disons toutes les parties. Donc c'est vraiment une chanson qui, pour moi, était très très aboutie, ouais.
J'ai
la création.
Ouais. J'ai eu l'occasion, à l'occasion de la préparation de cette petite interview, Nico, de revenir sur tes précédents albums. Je suis retombé sur le Transatlantic Live dont on parlait tout à l'heure. Je suis retombé également sur My Kind of Blues, qui est ton premier chez Dixie Frog, si je ne m'abuse.
Oui, c'est ça. Ouais.
Blues entre les dents, on en a parlé. On n'a pas évoqué Transgender, que tu avais fait en 2002, un album un petit peu à part, j'allais dire aussi, de ta discographie. Southern Wind Blowing en 2007, qui était superbe. Et puis Blasting the Blues, qui fait partie c'est ton second album, je crois, chez...
Voilà, c'est ça, en 2000, qui était sorti en
2000. En 2000 déjà. 1998 pour le tout premier. Ça fait déjà un petit peu plus de 13 ans de collaboration avec Dixie Frog. Je voulais savoir si tu avais, de ton côté, conscience de l'évolution de ta carrière, et puis, en corollaire à ça, en filigrane, le rôle de ton papa dans ton travail. Quels sont tes ressentis par rapport à ça, quand tu reviens un petit peu sur ce que tu as pu faire?
Disons que... Bon, si on parle de carrière, et si on parle de l'avant-carrière, en fait, avec la période avec mon père, bon, quand j'ai joué avec mon père, on se posait aucune question, quoi. On faisait de la musique avant de savoir ce qu'on allait faire. On était en train déjà de le faire, quoi, disons. Alors, derrière ça, il y a beaucoup de travail, malgré tout. C'était les années où je prenais encore des cours d'armo, peut-être à certaines occasions.
C'était les années Bobcats?
Oh, ouais, c'est ça, c'était les années de Pau avec le groupe des Bobcats, là, en 91, 92, tout ça, ouais, bien sûr, à fond.
Mm-hmm.
Donc, Il y a une énergie, une spontanéité, il y a une espèce de verve comme brute quoi qui est là, bon. Et après ça devient un métier et après il faut reproduire les concerts, du moins reproduire une qualité, garantir une qualité soir après soir. Il faut s'inscrire dans un calendrier d'une maison de disques, donc en gros tous les deux ans avoir un nouvel album. Donc les choses changent et puis en même temps, bon, voilà, forcément à force de faire, on maîtrise un peu plus. Mmh. Et si tu me demandes ce que ma carrière peut avoir en écho avec l'expérience avec mon père, c'est que dès que ça m'arrive assez souvent de me dire que pour me professionnaliser davantage, je pourrais m'éloigner d'un sentiment, d'une manière de jouer hyper brute, qui est celle qui est la mienne, et qui me vient de mes tout débuts, disons. Et à force de vouloir bien faire, ou de vouloir bosser en studio, ou à force de vouloir essayer de gagner plus de public, on a tendance à vouloir essayer de lisser le concert. Ouais. Et en fait, cette expérience avec mon père, elle m'éloigne de cette démarche de lissage. Parce que quand on veut lisser quelque chose, alors on perd l'émotion brute, on perd la prise de risque. Et moi, quitte à ce que ça me mette en porte-à-faux par rapport à des grands festivals qui peut-être m'ouvrent pas leurs portes, parce qu'ils ont peut-être pas l'impression que mon show est assez rodé, je ne sais pas exactement, parce que je me pose cette question en ce moment sur certaines choses. Eh bien, je ne veux pas lisser mon show parce que je préfère la prise de risque. Et quand on monte sur scène, et quand je suis monté à Vienne, au concert à Vienne notamment, parce que celui-là est sur YouTube et pas mal de gens ont vu la chanson Maynard Creeper et tout ça, on est monté sans cette liste. Et je joue la plupart du temps sans cette liste, parce que je veux être dans la création artistique. C'est un grand mot de dire ça, parce qu'on a quand même tout un tas de morceaux qu'on maîtrise, qu'on connaît. Mais à travers ces morceaux qu'on maîtrise et qu'on connaît, l'ordre... Et l'ordre et la manière de les jouer, de les interpréter, c'est systématiquement remis en cause à chaque concert. Et remis en cause sur le coup, du fait des contraintes peut-être de sonorisation qu'on a, peut-être du fait de la proximité du public, du fait de la quantité de gens. Pour tout un tas de raisons, les morceaux que j'ai sont à mobilité variable, en fait, sont à géométrie variable.
Ouais.
Et ça, je veux le garder comme ça, parce que j'ai toujours apprécié depuis le début, quand on a joué avec mon père, de jouer avec le cœur avant de jouer avec la tête, quoi. Et donc, si tu me parles de carrière avec ces débuts-là, cette introduction, c'est ce que j'aurais envie de dire.
D'accord, bah écoute, c'est une excellente réponse. On écoute quelques secondes de Midnight Creeper, si tu veux bien, justement.
Ok.
Ça n'a pas été enregistré à Vienne, c'était enregistré à Boston. Hein. Tu t'en souviens forcément de cette session avec, avec des
bien
musiciens
sûr.
Extraordinaires, dont le pianiste David Maxwell, d'ailleurs, hein, qu'on évoquait tout à l'heure. Ça veut dire, la réponse que tu viens de me faire, ça veut dire que s'il y a quelqu'un qui vient te voir à la fin d'un concert et que tu possèdes plusieurs exemplaires de chacun de tes disques, il va te demander, parce que c'est ce que demandent 90% des gens en concert, quel est le disque qui va me rappeler le plus ce que je viens d'entendre. Ça va peut-être être celui-là, du coup, le live, non, ou
effectivement, ouais. Effectivement, c'est fou, mais c'est vrai, c'est le live, parce que... Bon, maintenant, je joue beaucoup de mes morceaux les plus récents, c'est-à-dire depuis l'album Southern Wind, il y a aussi des morceaux de Blues entre les dents que je joue, et puis avec Lonely Number maintenant. Donc le répertoire aura beaucoup changé, mais l'énergie... Pour l'instant, elle est représentée dans aucun autre album mieux que sur le live.
Le chant français pour l'album Lonely Number, donc le projet n'était pas compatible avec le chant français, contrairement au Blues entre les dents.
Ouais, j'avais tout à fait décidé de pas du tout mettre de français dans ce disque-là.
Ouais.
Zéro français.
Délibérément, du fait de ta collaboration avec les autres musiciens qu'on évoquait, ou par choix artistique pur.
Non, c'était vraiment mon choix, ça.
D'accord.
De pas mettre un seul morceau, de faire un disque cohérent dans un registre qui serait celui du blues, dans une dimension assez traditionnelle, disons.
J'ai remarqué dans ta discographie qu'il y avait énormément de... enfin, une part énorme, bien sûr, dans la compo, mais il y avait de toute façon, dans chaque album, des reprises, quelques reprises des artistes qui t'ont influencé ou que tu as découvert au fur et à mesure de ton avancement dans la discographie du blues. Ça aussi, ça va continuer dans les prochains Nico Van Toussaint, dans les prochains albums?
C'est possible. Il y a des chances, je ne sais pas exactement, mais... Quand je voulais chanter une chanson sur la Floride, par exemple, pour rendre hommage un peu à ces années en Floride que je viens de passer, et oui. à des amis, justement, J.P. Soar s'est venu jouer sur le morceau, il n'y avait pas un meilleur morceau à écrire que celui que Muddy Waters avait fait, Deep Down in Florida. Donc, c'est pour ça que je trouve que des fois, il y a des reprises qui... Avant, j'ai joué des reprises parce que je trouvais... Parce que j'avais envie de jouer cette chanson maintenant. Je la joue juste aussi parfois parce que pour ce qu'elle représente, pour ce qu'elle implique. Mmh. Et dans la chanson Deep Down in Florida, j'ai envie de chanter ces paroles-là, pas juste parce que c'est Muddy Waters qui l'a faite et qu'il y a une version avec James Cotton sur le Hard Again que j'ai beaucoup écouté. C'est plus pour ça, mais maintenant c'est parce que j'ai envie de chanter ces paroles je sais à qui elles s'adressent de l'autre côté de l'Atlantique, disons.
Si on revient sur l'album Lonely Number, donc il vient de sortir chez Dixie Frog, est-ce que tu peux, en quelques mots, peut-être, ce sera pas si simple que ça, si rapide que ça, mais le choix des musiciens, le choix des invités, comment est-ce qu'il s'est opéré? Est-ce que ça a été à l'occasion, justement, tu le disais, de ton départ en Floride? Quand tu as par exemple buffé avec un groupe et puis que le lendemain c'est devenu ton groupe, quoi, c'était le Nico Van Toussaint Blues Band. Voilà, le choix de ces invités dont on évoquait la liste tout à l'heure, David Maxwell, bon ben ça c'est évident, ça fait déjà des années que vous collaborez ensemble, mais Monster Mike Welch, j'avais jamais entendu parler de collaboration entre Nico Van Toussaint et
Monster Mike Welch. Ah mais si, j'ai tourné avec Monster Mike Welch.
Eh ben tu vois, j'ai mes lacunes, tout le monde les a.
Ouais, bien sûr. En fait, avec Monster Mike Welch, j'ai fait, quand mon live est sorti en France, j'avais une tournée qui était prévue avec David et avec Kid Bingham.
Oui.
Et Kid Bingham a annulé à la dernière minute.
Oui, je me souviens, il y avait une date à Renéville-sur-Mer, j'y étais ce soir-là, exact, ouais.
Ah ok, ouais. Et donc il avait annulé à la dernière minute Kid Bingham et David m'a proposé Monster Mike Welch. Et donc toute la tournée s'est faite avec Monster Mike Welch.
Sauf la date de Renéville où c'était Florian Rieu à la guitare.
Non, parce que alors ça c'était en 2003 ça,
Renéville. Ah bah tu vois, bon bah alors voilà. C'est...
Quand je suis passé à Renéville-sur-Mer, c'était la première fois que je tournais avec David Maxwell.
Ouais.
Et la rencontre s'était faite via Tino Gonzalez, qui avait produit un album de David pour Dixie Frog. Et comme David n'avait pas forcément de groupe en France, et puis comme c'est pas un leader au chant, du coup Tino m'avait demandé s'il pouvait venir dans mon groupe pour faire un peu la promotion de son album, quoi, disons.
D'accord, d'accord.
Et c'est ce qui s'était passé, c'est comme ça qu'on était passé à Renéville en 2003. Et en 2004 ou 2005, j'ai fait cette tournée avec Monster Mike Welch. Ensuite, on a refait une tournée en 2006 ou 2007 où on était passé au Festival du Passage d'Agen, que Christian Boncourt organisait à l'époque.
Mmh, mmh.
Et ensuite, il n'y a pas très longtemps, le batteur Fabrice Bessouat avait monté une tournée avec Mike Welch, qui passait par le Méridien, et il m'a appelé pour jouer... 5 concerts avec Mike aussi au Méridien. Donc on a toujours eu une relation, même si elle est de loin en loin, mais ouais.
Eh ben écoute, voilà, ça, j'avais loupé cette tournée-là. Et puis,
c'est par mon intermédiaire que Mike a été avec Dixie Frog aussi.
D'accord, d'accord.
Voilà.
Il y a un autre invité dont la présence m'a interpellé quand j'ai vu son nom la première fois, c'est Rod Piazza, un harmoniciste invitant un autre harmoniciste. Ça se passe comment?
Pour moi, avoir Rod Piazza sur mon disque, c'est énorme. Mais plus que ça, disons, c'est un peu le point d'orgue d'une relation qui s'est créée il y a un an et demi, quand j'ai vécu à Los Angeles et quand je suis allé le rencontrer dans, dans les clubs et qu'on a sympathisé, qui m'a invité à jouer avec lui. Et qu'ensuite, il m'a réinvité à jouer à d'autres occasions, notamment en Floride, à un festival où on était programmés ensemble à Daytona.
D'accord.
Et puis il m'a donné, il m'a offert son harmonica chromatique ce soir-là. Et puis là, le lien est resté, quoi. Et quand on a fait un concert ensemble en France à Tournon-d'Agenais, où j'ai joué avec les Mighty Flyers en ouverture de Rod, et donc je faisais venir Rod après et le deuxième set on a fait tout le deuxième set ensemble.
Ils en ont de la chance, les gens du Sud-Ouest, je peux te dire. On va parler des musiciens du Sud-Ouest aussi, parce que il y a une série de questions que je voulais te poser par rapport à l'évolution des amis musiciens avec qui tu as collaboré ou que tu continues à collaborer depuis 10-15 ans ou parfois plus pour certains. Je voulais savoir si tu étais d'accord sur le principe d'un question-réponse très rapide, c'est-à-dire, okay, je sais pas moi, un mot, deux mots, trois adjectifs, je te donne des noms des gens avec qui tu as joué et puis voilà, tu me donnes les mots qui te passent par la tête.
Ok, ça marche.
Fabrice Bessouat.
On passe.
Florian Rio.
Voilà, il est éclairé, lui.
Julien Brunotto.
Lui, il est génial.
Vincent Paulet-Villard.
C'est un excellent pianiste.
Nicky Estor.
Nicky Estor, c'est un personnage que j'ai appris à découvrir au fur et à mesure de notre relation. C'est particulier. C'est pas la même personne aujourd'hui que celui qu'il était dans le cadre des Mozilla. C'est très étonnant. C'est une relation qui s'épanouit au fur et à mesure.
Vincent Donne.
Vincent Donne, très bon batteur. Super batteur, super pro. Super pro, Vincent Donne.
Michel Foison.
Michel Foison, c'est la moitié de mon expérience de musique, disons, surtout au début, quoi. Sans lui, je n'existe. Si on n'avait pas été réunis un jour par un brasseur de peau qui voulait avoir du blues un certain mercredi et qui nous avait pas associés de force, je sais pas si je ferais de la musique aujourd'hui. C'est rigolo.
Ouais, je me souviens d'un duo Michel Foison, Nico Wayne Toussaint au sous-box, c'était terrible, ouais, effectivement.
Mr. Chang, une fois je l'avais dit dans un magazine, mais c'est vrai, c'est le guitariste que j'aimerais être.
Tiens, oh là là. Vincent Perrut.
Antoine Perrut,
oh là là, Vincent, attends, excuse-moi, il y a une ligne qui a sauté.
Antoine, c'est le bassiste avec qui je joue depuis 5 ans,
ouais, ouais.
Et si j'ai une chose à dire, c'est le parrain de ma fille. Voilà.
Très bien. Rax Lacour.
Rax Lacour, je l'ai dans le sang, Rax. Il a forgé mon son aussi.
Anthony Stelmazac.
Un excellent musicien de la scène nationale et même plus. On se croise souvent, on se connaît peu.
Il me reste un Français d'adoption et un autre musicien avec qui tu collabores actuellement. Neil Black, d'abord.
Neil Black, c'est un vrai pote.
Et Mathieu Pesquet.
Et Mathieu Pesquet, on a 10 ans d'écart avec Mathieu et je l'ai vu presque démarrer quand il essayait de jouer Stevie Ray Vaughan dans les jams qu'on faisait. Il avait acheté la Strat Stevie Ray Vaughan et maintenant c'est incroyable de voir où il en est, quoi. Et le revirement qu'il a fait. Et quand il a changé de l'électrique pour l'acoustique, je lui ai dit, qu'est-ce que tu fais, Mathieu? Et il me dit, non, mais ça me plaît vraiment. Et la preuve en est, c'est qu'il est en train de devenir vraiment un des maîtres dans son style, hein.
Ben oui, ça n'a plus rien à voir. C'est vrai qu'on avait pu l'applaudir il y a quelques mois de cela, avec son harmoniciste, un autre harmoniciste avec qui il collaborait, Roll. Et maintenant, tu te produis avec lui. J'ai vu une vidéo il n'y a pas très longtemps, ça avait l'air très très
excitant. Non, je ne me produis pas avec lui du tout.
Non. Ou alors,
mais par contre, il est venu en invité sur mon album ouais. Entre les dents pour faire deux titres.
Ouais, mais je sais qu'il y a en ce moment, il y a un bundle, double concert, Mathieu Pesquet, Nico Wayne Toussaint, qui est en train de se proposer, qui est en train de se monter. Et d'ailleurs, on a dû malheureusement décliner l'offre par rapport au sous-bock, puisque comme tu sais, les concerts s'arrêtent après le 21 janvier. Ça va faire partie des grands regrets. Ça va faire partie des grands regrets de ne pas avoir pu te faire revenir sur la scène du sous-bock. Bloc, on en a parlé il n'y a pas très longtemps.
Je me souviens d'un sacré concert qu'on avait fait avec Neil, en quartet.
Exact, exactement.
Ouais. Au Sous-Bloc, ouais. le truc était plein à craquer jusqu'au balcon.
Ah oui, comme quoi ça arrive encore. Hein. Ça arrivait encore de temps en temps. Voilà, donc tes impressions à propos de ces amis musiciens avec qui tu as joué. J'ai une petite question de la part de Natalia Blues, parce que tu sais qu'il y a des gens qui écoutent sur Internet, qui réagissent sur Facebook également.
Ah, très bien.
Il y a Jean-Christophe Panucco, tu sais, le guitariste-chanteur des Witch Doctors, qui me dit « Dis à Nico que son album français est fabuleux, que sa reprise de Mon Dieu me fait chialer à chaque fois, et demande-lui si un de ses jours est contre faire un disque en français. »
Eh bien, merci, Jean-Christophe. Et je pense que oui. Et je pense que, je pense que ouais. Et ce qui est très, très rigolo, tu vois, c'est des fois... C'est une course de fond qu'on fait quand on fait de la musique, quand on en fait son métier. C'est une course de fond. Il faut pas s'essouffler. Il faut pas vouloir partir trop vite. Et il faut arriver à tenir en dépit des mauvais temps qu'on peut rencontrer sur le chemin. Parce que avec cet album en français, pendant un an, même le public, hein, s'y retrouvait pas. Les gens, qu'est-ce que c'est? On préférait l'Unico d'avant. Maintenant, les programmateurs, pareil, n'en voulaient pas. Ok. On a quand même joué l'album. Après, on a rajouté des trucs un peu plus en anglais pour récupérer un peu d'énergie parce que les morceaux étaient quand même assez posés. Mm-hmm. Mais maintenant que je joue plus ce disque, a priori. Les gens viennent me voir, les gens, ils me disent « Est-ce que vous allez chanter des chansons en français quand même aujourd'hui ?»
Eh oui.
Et donc voilà, tu vois, il faut du temps pour imposer des choix. Il y a des choix qui parfois, les gens les comprennent d'emblée, et il y en a d'autres, il faut qu'ils les digèrent, quoi. Mais il faut pas se perdre en cours de route quand on est l'artiste, disons, quand on est le musicien. Et il faut garder son propre cap, quoi. Quoi qu'il advienne, c'est son cap qu'il faut garder parce que...
Ça c'est une sage parole, hein. Il y a beaucoup de bluesman de bluesman authentiques, j'allais dire, qui prônent ce genre de discours, à commencer par le roi d'entre eux, B.B. King. C'est toujours les conseils qu'il donne, hein, quand on lui demande s'il a un conseil à donner. Be yourself and don't play any note. It isn't useful to do. Hein, ne joue aucune note qui ne soit pas utile. Jean-Christophe rajoute, les programmateurs n'aiment pas les gens qui font du blues en français. Les programmateurs de festivals, j'imagine, vous voulez dire.
Hein. Oui, oui.
Ça, c'est dur. Hein. C'est dur à entendre, ça.
Oui, parce qu'on est en... Oui, voilà. Ouais. Tu sais, c'est vrai, parce que le blues en France, c'est encore dominé principalement par la culture américaine, ce qui est normal, mais tu sais, c'est vraiment rigolo. J'étais en Espagne la semaine dernière, et j'ai joué à Madrid avec un très bon ami à moi qui s'appelle Tonki de la Peña, qui a été guitariste, qui a vécu aux États-Unis, qui a vécu en France, qui a beaucoup travaillé avec Christian Méliès, Pat Boudolamo, tout ça, le front page au début des années 90. Et aux États-Unis, il a vécu 2 ou 3 ans à Minneapolis, après au Texas. En Espagne, il a accompagné Jerry Lee Lewis, enfin tout un tas de Louisiana Red, Caribel, un tas de gens. Et c'est vraiment l'un des précurseurs du blues espagnol. Et je suis en train de faire un reportage vidéo sur lui et j'interviewais des copains à lui, quoi. Et il y a un harmoniciste espagnol avec qui il a beaucoup joué. Et le gars il me disait, tu sais, nous en Espagne, on n'a pas eu Memphis Slim qui a vécu chez nous, on n'a pas eu tous ces gens-là.
Thibaut Walker,
Il me dit, on a eu juste les disques. Et on a fait le blues avec notre putain de manière, comme il le dit. Mmh. Et en fait, il y a un truc dont il faudrait arriver à se démarquer, c'est la honte de faire de pas vouloir faire du blues à notre putain de manière. Et il y a un type comme, ok, Verbeek, Benoît Blue Boy l'ont fait, à leur manière à eux d'ailleurs, et ça a eu un gros succès à leur époque.
Bill Doren, Paul Person.
Bill Doren, mais ils sont marginaux, ils sont peu, du moins c'est vraiment, ça correspond, je dirais, aux années Renault aussi, où il y avait un certain ton en français qui passait, et maintenant on dirait que c'est super has-been, quoi.
D'accord.
Et il faut que les gens, je sais pas exactement.
Il faut un renouveau peut-être.
Ça va changer, ça changera, ça changera.
Il y a des gens qui te demandent, ça va être une de mes dernières questions, Nico, quand est-ce que tu viens à Caen, et quand est-ce que tu viens à Bordeaux? Il paraît que tu viens moins souvent à Bordeaux qu'avant.
Mais parce que, pour les gens qui ne le savent pas, j'ai beaucoup vécu aux États-Unis les quatre dernières, depuis 2008.
Ouais, c'est.
Et j'étais, bien sûr, donc, comme je n'ai pas le don d'ubiquité, j'étais très absent de l'Hexagone.
Mais Nico Wayne Toussaint à Caen, ça remonte à 10 ans au moins.
Hein. Non, ça remonte à 2007 quand je suis venu à... Enfin, au Sous-Bock, du moins.
Voilà. Alors, le Sous-Bock, c'était Coville, c'était la campagne. Mais maintenant, il n'y a plus de Sous-Bock. Donc, il y a des gens qui se demandent s'il n'y a pas une salle qui va t'accueillir à Caen. Je me souviens d'une soirée à l'Espace Puzzle organisée par Backstage. C'était fabuleux. Donc, voilà. C'était.
Thomas Troussier, j'avais rencontré Thomas à cette occasion. Exact. Qui est un des meilleurs harmonicistes français.
Ouais.
Même,
Thomas qui avait fait les Blue Tones, qui joue maintenant avec Alex Devray, ouais.
Ouais, et puis qui joue aussi de temps en temps avec Longe, qui enregistre un truc avec Longe.
Exact, le Longe Trio, il est dedans, ouais.
Je sais pas qu'est-ce qui, s'il y a des endroits à Caen pour passer, je vais taper aux portes.
Parce et que, ben, ouais, un petit coup de fil à Jacques Picard de Backstage, tiens, par exemple, qui est très bien placé. Écoute, Nico, je voulais te remercier pour toute cette interview, pour ta passion, pour ta franchise, ton honnêteté, ta générosité et ton talent, au-dessus de tout ça encore. Et puis également, la générosité, le talent de Philippe Langlois, qui font que pendant tout le mois de décembre, je sais pas si t'étais au courant, mais on a pu offrir un album, Lonely Number, à chacune des émissions Sweet Home Chicago du mois de décembre. Ça sera le cas encore aujourd'hui, dans quelques secondes, juste après le morceau qui vient. Merci à toi, Nico. Merci. Très bonne année à toi, 2012.
Tout mes voeux à tout le monde.
Si tu as quelque chose à ajouter, que j'aurais oublié de te demander, une info importante à passer, c'est le moment, si tu veux bien.
Juste qu'avec Neil Black et Fred Chapelion, on concocte aussi un album pour Dixie Frog.
Carrément.
Qui est majoritairement un album live, enregistré en juin dernier. Mais qui va être également agrémenté d'un bonus de 6 titres studio qui sont des originaux de Fred, Neil et moi, pour cet album et ce projet. Et voilà. Et donc ce disque-là, il me semble que ça va s'appeler BTC, Black Toussaint Chapelier Blues Review, et ça va sortir en avril ou en mai sur Dixie Frog. Voilà.
Très bien, merci pour l'info, Dico. On suivra ça et on diffusera ça, bien sûr, dans Sweet Home Chicago. Je te souhaite tout le meilleur pour 2012 et les années qui viennent.
Merci, à très très bientôt.
À très bientôt. On va pas conclure avec un extrait du nouvel album Lonely Number, qu'on écoutera un petit peu plus tard dans l'émission encore, mais avec un titre que j'aime bien, qui est extrait du numéro 1 de Transatlantic Live, enregistré à Tournon d'Agenais. Ça s'appelle I Can't Stop Playing the Blues.